Ils font partie de nos vies professionnelles et de nos interactions sociales omniprésents. Ils bousculent nos habitudes et alimentent les fantasmes. On leur prête même des pouvoirs gigantesques et des capacités de nuisance sans précédent. Bienvenue dans le monde des algorithmes. Les chercheurs Serge Abitboul et Gilles Dewec ont décidé d'éclaircir les choses en proposant une traversée dans cet univers des algorithmes avec des clés pour en comprendre réellement la nature, les capacités et les limites, pour lever le voile de mystère qui plane parfois sur ces objets mathématiques et de l'informatique à l'origine de nombreux bouleversements. Les algorithmes, donc, c'est le dossier de l'émission dans un instant avec vos messages. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte autour des mécanismes de la mémoire en lien avec notre sommeil.
Oui, à quoi il sert ce sommeil? Certains chercheurs pensent qu'il nous permet d'oublier des choses inutiles, d'autres au contraire qu'il consolide notre apprentissage. De nouveaux résultats pour mettre tout le monde d'accord et on en discute avec le neuroscientifique Karim Benchenan.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à la vérification de la science. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée par Pierre Desertaines.
Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et donc dans quelques instants, le dossier avec le monde des algorithmes que nous allons donc découvrir avec vous, Serge Abitboul et Gilles Dewec. Bonjour à tous les deux. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Serge Dewec, pourquoi les algorithmes font autant fantasmer?
Alors Serge Abitboul et pas Serge
Serge Abitboul, oui, excusez-moi.
Pourquoi les algorithmes font fantasmer? Parce qu'ils sont en train de bouleverser notre quotidien, nos façons de travailler, nos interactions sociales, et que les gens s'en rendent compte petit à petit. Et du coup, il y a ce fantasme qui naît sur tout ce qui pourrait nous permettre de réaliser.
Oui. Donc vous avez décidé de calmer un petit peu tous ces fantasmes pour poser les choses. Gilles Dewec, est-ce qu'avec les algorithmes, l'homme possède aujourd'hui un véritable outil à la hauteur de toutes ses aspirations?
Oui, alors on peut dire que nous avons des outils depuis 4 millions d'années, puisque des marteaux, des bifaces, etc., on en a depuis longtemps. Mais peut-être, avec les algorithmes, nous avons un nouveau type d'outil qui nous permet non seulement de façonner la matière, mais aussi des symboles. Et donc, c'est une véritable révolution, peut-être la révolution de la technique que nous vivons aujourd'hui.
Eh bien, nous allons l'explorer avec vous dans quelques minutes, et avec donc les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et depuis longtemps, les neurobiologistes qui cherchent à comprendre l'influence du sommeil sur les mécanismes de la mémoire, et deux grandes théories qui prédominent dans ce domaine, celle de la réactivation, au cours de laquelle le sommeil renforcerait les souvenirs importants, et puis celle de l'oubli, le sommeil permettrait au contraire d'oublier donc les souvenirs inutiles. En apparence donc, elles sont opposées, ces deux théories, et bien elles ne pourraient ne faire qu'une au regard de deux publications publiées la semaine dernière dans la revue Science. Karim Benchenan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur CNRS en neurosciences à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle. Donc on a deux théories, c'est ça, autour du sommeil et de la mémoire. Sur quoi elles se basent alors exactement?
Oui, comme vous l'avez dit, on peut les résumer par le sommeil, ça consolide la mémoire, ou bien le sommeil, ça permet d'oublier les faux souvenirs. En fait, les scientifiques parlent en termes un peu différents. Parce qu'en gros, la mémoire, c'est le renforcement des connexions synaptiques dans le cerveau. Donc les neurones communiquent entre eux par des synapses, et on considère que l'apprentissage, c'est de renforcer la force des synapses pendant l'éveil. Et un des problèmes, c'est que cette communication, ça consomme de l'énergie. Mmh. Et donc si on faisait que d'apprendre pendant l'éveil, en fait ça consommerait de plus en plus d'énergie.
On ferait exploser
la cocotte minute. Système.
Ouais.
Et donc c'est de cette observation que Giulio Tononi et Chiara Cirelli ont émis l'hypothèse, en reprenant des hypothèses apportées par Francis Crick, que le sommeil serait utilisé pour diminuer le poids des synapses. Et donc le sommeil serait le prix à payer pour la capacité d'apprendre pendant l'éveil. Et donc c'est une théorie qui est extrêmement élégante, qui permet de coupler l'apprentissage de l'éveil avec le contrôle des stocks énergétiques, et le sommeil sera important là-dessus.
Et on aime l'élégance en science.
Voilà, c'est très 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 élégant. Et donc d'après cette théorie, pendant le sommeil, le cerveau ne fait que diminuer les poids synaptiques. Et donc ça entre en conflit direct avec l'autre théorie majeure du rôle du sommeil dans la mémoire. C'est que pendant le sommeil, on rejoue les informations pertinentes, et le fait de les rejouer les consolide. Et donc, d'après cette théorie, il faudrait qu'il y ait de la plasticité pendant le sommeil, et notamment une augmentation de certains poids synaptiques. Donc, il y a les versions très orthodoxes des deux théories. Certains disent qu'il n'y a que du diminution des poids synaptiques pendant le sommeil, d'autres qui disent qu'il n'y a que une augmentation. Et un des problèmes pour répondre à cette question, c'est qu'on est limité techniquement, parce qu'on ne peut pas augmenter mesurer le poids des synapses de tout le cerveau pendant l'éveil et pendant le sommeil. Et donc, on n'avait que des preuves indirectes. Et là, l'étude, notamment l'étude de Tononi dans Science, a utilisé un peu l'arme atomique pour mesurer ça. C'est d'utiliser de la microscopie électronique, donc de regarder directement les synapses dans le cerveau d'animaux qui étaient éveillés ou qui dormaient. Et on regardait vraiment la taille des synapses.
Alors, ils ont vu que pendant la nuit, majoritairement, la taille des synapses diminuait. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça veut dire que l'animal, puisque là c'est des souris, est en train d'oublier ?
Voilà, donc en gros, une des choses que cette étude montre clairement, c'est que la majorité des synapses ont tendance à diminuer leur taille, et donc qu'il y aurait effectivement de la dépression. Il montre quand même qu'il y en a certaines qui augmentent, notamment le deuxième article. Le problème, c'est de passer de cette observation à l'oubli. C'est très 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 difficile de montrer chez l'animal qu'un animal oublie, parce que si on améliore certains souvenirs, on améliore la performance, et si on diminue les souvenirs non relevants, on va également améliorer la performance. Donc le passage de il y a une diminution des poids des synapses à l'oubli est une extrapolation assez exagérée par rapport aux observations que l'on peut faire.
Et au final, est-ce que les deux théories ne sont pas simplement complémentaires ? Parce que oublier une partie des choses, ça ne revient pas exactement au même que de renforcer le reste ?
Voilà, exactement. Et c'est un peu ce que montre lorsqu'on regarde les détails des études. C'est on peut tout à fait avoir les deux théories qui coexistent. À savoir, on oublie les informations non relevantes et on améliore celles qui sont pertinentes. Donc en gros, les deux théories peuvent parfaitement coexister. Et les spécialistes, en regardant les études, trouvent des arguments pour les deux. Donc ça ne va pas régler la guerre, les deux.
C'est un peu la théorie du tout du sommeil, en fait, hein, si on arrive à unifier comme ça ces deux théories.
Alors c'est pas le tout du sommeil, parce que en gros, le sommeil, on sait qu'il est important pour énormément de choses. On insiste énormément sur l'effet du sommeil sur la mémoire, parce qu'on arrive à comprendre les mécanismes au niveau neuronaux. C'est pour ça qu'on parle
sur
beaucoup
la mémoire,
du sommeil. Exactement.
Absolument.
Ouais. Quand on regarde à une autre échelle, c'est-à-dire qu'on regarde des animaux ou des hommes qui sont privés de sommeil ou qui dorment beaucoup, est-ce qu'on voit ces effets apparaître ?
En gros, lorsqu'on fait des privations de sommeil, les plus gros déficits qu'on voit, c'est des déficits attentionnels sur la fatigue ou sur les choses comme ça. Donc la première chose qu'on va observer sont de cet ordre-là. Et on voit également des déficits de mémoire. Mais en gros, l'effet principal du sommeil serait plus sur des fonctions du système immunitaire, sur le système énergétique, sur le système de tout ce qui est attention. Mais par contre, on comprend comment le sommeil a un effet bénéfique sur la mémoire.
Tous les travaux de microscopie sont faits sur des rongeurs, bien sûr. Est-ce que vraiment la mémoire ou l'apprentissage des rongeurs et des souris, c'est la même chose que dans notre cerveau ?
C'est transposable à l'homme, oui.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que la majorité des résultats obtenus sur le lien entre sommeil et mémoire obtenus chez des rongeurs a été transposé à l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que certaines oscillations sont importantes chez le rongeur, et lorsqu'on manipule ces oscillations chez l'homme, on peut améliorer les effets bénéfiques du sommeil sur la mémoire. Et il y a notamment certaines start-up qui essaient maintenant d'utiliser des mécanismes permettant d'augmenter ces oscillations pour améliorer la mémoire.
Une dernière question très large. Concrètement, on sait aujourd'hui ce que c'est dans notre cerveau un souvenir ?
Non.
Non ? On n'a pas de réponse à ça ?
Non, on sait, il y a certaines structures du cerveau qui sont importantes, puisque lorsqu'elles sont détruites, il y a des problèmes de mémorisation. On a d'énormes hypothèses que le souvenir, c'est une modification de la façon dont les neurones communiquent entre eux. Mais hormis ça, on ne sait pas grand-chose d'autre.
Gilles Dewey, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser des algorithmes pour calculer le poids des synapses, par exemple, parce que la biologie et les mathématiques, ça fait bon ménage. Hein,
ça fait très bon ménage, et l'informatique et la biologie aussi. D'ailleurs, en écoutant Karim, il y avait un certain nombre de mots qui revenaient, qui sont intéressants, et qu'on n'aurait sans doute pas entendu dans la bouche d'un biologiste au 19e siècle.
Lesquels, par exemple,
du 20e siècle, ouais. Le mot mécanisme, par exemple. C'est-à-dire le fait de poser la question du fonctionnement du cerveau comme quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le cerveau. C'est une manière assez
récente, assez contemporaine de poser les questions en science. Et on voit un petit peu une empreinte du monde des algorithmes, du temps des algorithmes, sur la manière dont on discute les questions en biologie, et en biologie du cerveau, mais également en biologie de la cellule, par exemple.
Karim Benchenan.
Oui, il y a beaucoup de choses dont on s'inspire respectivement dans le domaine des algorithmes, notamment dans le machine learning. Il y a des algorithmes qui s'appellent Wake Sleep.
C'est quoi le machine learning, s'il vous plaît?
C'est les algorithmes justement qui permettent d'apprendre à des programmes informatiques.
Qui permettent à des machines d'apprendre.
Merci. Voilà.
Et donc en fait, il y a des théories qui disent on peut avoir des phases actives d'apprentissage et des phases inactives, en offline, qui permettent de rejouer les informations pour faire converger des algorithmes.
Alors, j'allais dire, il y a aussi le mot mémoire, mais là, ça serait un peu exagéré, parce que peut-être que les biologistes, et spécialement les spécialistes du cerveau, ont parlé de mémoire avant les informaticiens.
Ouais. Karim Benchenan, aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur les intelligences artificielles lisent toutes ces publications de neurobiologistes sur le cerveau.
Ah oui, mais dans les deux cas, par exemple, il y a sur la mémoire, il y a d'abord des expériences de pensée. Par exemple, Descartes disait déjà que la mémoire des mots et la mémoire motrice n'étaient pas la même. Il y a également d'énormes travaux en modélisation dans les années 50 et dans les années jusqu'aux 50-70, où cette consolidation de la mémoire, par exemple, a été proposée par des modélisateurs, notamment David Marr, etc. Et d'autre façon, par exemple, l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que quand on a une récompense, il y avait ce qu'on appelle la prédiction d'erreur, qui a été en fait proposée par des informaticiens pour expliquer comment un organisme pouvait apprendre, et on s'est aperçu après que dans le cerveau, il y avait des neurones qui suivaient exactement cette règle.
Merci en tout cas Karim Benchenan pour cet éclairage sur donc ces publications, ces recherches dynamiques et élégantes autour donc du sommeil et de la mémoire. Merci beaucoup et Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, manger des céréales complètes améliorerait le métabolisme. Dans deux publications de l'American Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs affirment que les céréales complètes comparées aux céréales raffinées permettraient de perdre près de 100 calories supplémentaires par jour, soit l'équivalent d'une marche de 30 minutes, sans impacter la sensation de faim ou la forme des patients. Cette perte serait due à une plus grande efficacité de la consommation des calories par le corps et à une meilleure élimination fécale. 25%, c'est la part de la population des antilopes saïga mongoles qui serait morte en près d'un mois. Cela représente 2500 individus. Selon les scientifiques, ces antilopes seraient décimées par la peste des petits ruminants, un virus d'origine africaine arrivé en Asie centrale depuis 10 ans, qui normalement ne touche que des animaux domestiques comme les chèvres ou les moutons. Cette épidémie intervient alors que le Saïga est considéré en danger critique d'extinction depuis 15 ans. En 2015, près de 210 000 individus avaient succombé à une infection bactérienne au Kazakhstan. Et puis la revue Science entend défendre la science contre l'administration Trump. Dans un éditorial paru hier, Rush D. Holt, le directeur général de la célébrissime revue américaine, appelle la communauté scientifique à défendre la production scientifique et les décisions politiques qui en découlent, craignant que la nouvelle administration américaine ne soit supplantée par l'idéologie avec les faits alternatifs. Le directeur de Science demande aux scientifiques de prendre la parole et de défendre publiquement leur démarche. Allez, nous partons dans l'univers des algorithmes. C'est le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités et vos questions. Arcade Fire à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et le temps des algorithmes, c'est un livre donc, qui paraît aux éditions Le Pommier. C'est le dossier de l'émission avec ses deux auteurs, Serge Abitboul et Gilles Dowek. Serge Abitboul, vous êtes chercheur à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Vous êtes professeur à l'ENS Paris-Saclay. Et Gilles Dowek, vous êtes également chercheur à l'INRIA, professeur également à l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes membre du conseil scientifique de la Société Informatique de France. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr. Il y avait un besoin urgent d'expliquer ce que sont les algorithmes aujourd'hui, Gilles Dowek.
Oui, on a décidé d'écrire ce livre un jour où Serge m'a téléphoné et il m'a dit « Est-ce que tu as remarqué qu'on ne peut plus allumer la radio sans entendre parler d'algorithmes ?»
C'est bien ça, non ?
Oui, alors on était contents, mais en même temps, on se disait « Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur les algorithmes. » Pas uniquement des bêtises, hein, il y avait aussi des choses sensées, mais beaucoup de bêtises quand même. Et donc on s'est dit, c'est un peu ça l'origine du livre, ouais. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un livre, au départ pour expliquer ce que sont les algorithmes, pour un peu éclairer, mais pas éclairer nos collègues informaticiens sur ce que sont les algorithmes,
ouais.
Un
le
peu éclairer
grand public, hein.
Le grand public, mais aussi les journalistes, mais ouais. Aussi les
hommes politiques.
Par exemple, il y a eu au Sénat un débat au moment de la loi sur le renseignement, et on peut penser ce qu'on veut de la loi sur le renseignement, mais il y a eu dans ces débats le mot algorithme qui revenait souvent. Est-ce qu'on pouvait écouter des gens, analyser des mails avec des algorithmes. Et on s'est dit, ça serait pas mal si les sénateurs comprenaient un peu ce qu'ils racontent.
Ouais, Serge Abitboul, c'est vrai qu'il y a quand même, en filigrane, on pourrait le dire, hein, un certain nombre de messages envoyés effectivement aux décideurs. Et vous parlez de choses très concernantes aussi pour la société.
On a essayé de ne pas écarter de sujets. On a essayé de prendre les sujets qui intéressent tout le monde et d'apporter à ces sujets notre éclairage. Alors, notre éclairage, c'est d'abord c'est des points de vue. On peut pas s'empêcher d'avoir des points de vue. Mmh. Et c'est aussi tenir compte de la réalité des algorithmes, parce qu'il y a deux choses. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec et aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Oui. Et très souvent, les critiques qu'on peut entendre dans un peu partout, sont des critiques qui s'adressent à ce qu'on en fait aujourd'hui et pas du tout à ce qui pourrait être de fait. Ce qu'on a voulu dire, peut-être un de nos messages principaux, c'est que, d'une certaine façon, ces algorithmes pouvaient être énormément de choses et que c'était à nous de décider ce qu'on allait faire avec.
Donc une vraie question de société aujourd'hui.
C'est une question complètement de société, mais une question de société qui implique que vous compreniez de quoi vous parlez.
Oui, alors c'est ça, parce que vous dites, on accepte d'utiliser les algorithmes en ignorant quasiment ce que c'est au fond.
La plupart des gens ignorent ce que sont les algorithmes, y compris nos décideurs qui décident au sujet des algorithmes, y compris les enseignants qui, dans la plupart des cas, enseignent les sciences aujourd'hui comme on les enseignait au XXe siècle, sans tenir compte du fait que ça a véritablement changé, qu'on ne fait pas de la physique, de la biologie de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait au XXe siècle. On utilise des ordinateurs, par exemple.
Ouais. Gilles Dowek, d'où ces malentendus, ces fantasmes aussi et ces craintes, par cette ignorance ?
Oui, alors bon, que l'ignorance engendre des fantasmes et des
des craintes, c'est quelque chose qui est bien connu, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas le seul livre sur les algorithmes qui sort, et il y a énormément de livres qui sont dans la dénonciation, qui sont dans le fait de nous montrer à quel point le monde vers lequel on va.
On aura des exemples à vous donner dans un instant.
Je crois que cette phobie, cette peur, elle vient beaucoup de l'inconscience, de l'incompréhension de ce qui se passe réellement. Après, ça ne veut pas dire que ces arguments sont forcément faux. C'est-à-dire, on ne veut pas non plus proposer un monde idyllique dans lequel on va vivre avec les algorithmes. Je pense qu'il y a de vrais problèmes qui se posent, mais pour comprendre ces vrais problèmes, il faut commencer par se débarrasser de ces fantasmes et de ces faux problèmes.
Alors, pour savoir exactement ce que sont les algorithmes, parce qu'on va quand même expliquer ce que c'est dans un instant, petit voyage en arrière avec l'année 1969, et là, on parle d'ordinateur.
Un ordinateur, c'est une machine qui supplée à certains défauts de l'esprit humain, comme par exemple la faible capacité de sa mémoire ou son manque de rapidité ou de puissance de calcul. C'est une innovation considérable. La révolution industrielle du 19e siècle, ce fut en quelque sorte la multiplication par la machine des capacités physiques et musculaires de l'homme. La révolution informatique du 20e siècle, c'est et ce sera la multiplication par la machine de la mémoire et de la raison humaine. C'est sans doute pour cela, parce que l'informatique touche à certaines fonctions que l'on croyait jusque-là réservées à l'esprit humain, c'est sans doute pour cela que dans l'opinion publique, l'ordinateur s'est souvent trouvé être l'objet de peur ou de crainte. On se posait un certain nombre de questions à son sujet. Par exemple, peut-on dire que l'ordinateur sait parler? Peut-on dire qu'il est intelligent? Eh bien, à ces questions, cette première émission va vous apporter, je crois, des réponses claires.
Voilà, c'était en 69 dans la voix d'un monsieur qui s'appelle Michel Triguet. Alors c'est amusant parce qu'évidemment, on a pris cette archive parce qu'on pourrait exactement, quasiment mot pour mot, la transposer aux algorithmes, Serge Habitboul.
Tout à fait. La seule raison pour laquelle on utilisait le mot algorithme, c'est parce que c'est une certaine façon le mot à la mode. C'est un concept important, mais c'est la façon d'en parler aujourd'hui. Mais on parle aussi des algorithmes, et on parle surtout des algorithmes qui sont réalisés par des ordinateurs et pas des algorithmes qu'on utilise depuis les tout débuts de l'ère humaine, qui nous permettaient de résoudre des problèmes, de transmettre des solutions. Là, on parle véritablement des algorithmes qu'on résout avec des ordinateurs. Et donc on pourrait pratiquement dire qu'on parle d'ordinateur.
Alors, Gilles Dewec, puisque vous êtes un bon vulgarisateur, expliquez-nous ce qu'est un algorithme, alors, avec des exemples faciles à comprendre.
Alors, on peut commencer parce que ce que n'est pas un algorithme. Quelles sont les situations où on n'a pas d'algorithme? Et on commence le livre qu'on a écrit avec Serge par une petite parabole où on imagine un homme préhistorique qui a vu une personne, par exemple sa grand-mère, faire du pain et puis qui essaye à son tour. Et quand on est face à un problème comme ça, comment faire du pain ou comment faire un tiramisu, etc. Et on a en général pas d'algorithme, c'est-à-dire on se trouve dans une situation où on tâtonne. On essaye, on fait une expérience, puis ça marche, ça marche pas, et puis parfois on trouve, parfois on trouve pas, et quand on trouve, c'est souvent parce qu'on a eu beaucoup de chance.
Ou parce qu'on a une recette, alors.
Alors, une fois qu'on a trouvé, on peut, si on a noté ce qu'on a fait, on a une recette. Et une fois qu'on a une recette, c'est quelque chose d'assez important et d'assez important dans l'histoire humaine. C'est un concept important, la recette de cuisine, puisque chaque jour, on peut recommencer la même recette, ou chaque semaine, on peut recommencer la même recette. Mmh. Et donc, on a fait un petit pas pour le cuisinier, mais un grand pas pour l'humanité, puisque l'humanité va pouvoir répéter cette recette. Et cette recette, on va pouvoir se la transmettre, cette recette, on va pouvoir l'améliorer, cette recette, on va pouvoir l'étudier, on va pouvoir faire des variantes, et aussi, on va pouvoir l'utiliser sans réfléchir, et tout d'un coup, se mettre à réfléchir à quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça qu'on appelle un algorithme, c'est une recette qui nous permet de résoudre un problème sans avoir à réfléchir, sans mobiliser son imagination, sans avoir à chercher, simplement parce qu'on connaît une recette.
Avec cette idée donc de transmission aussi, de génération en génération, d'une connaissance particulière, Serge Habitboul.
C'est exactement ça, c'est cette transmission qui est importante. À partir du moment où vous avez trouvé, vous avez peut-être été un génie, vous avez peut-être eu de la chance, vous avez trouvé une façon de résoudre un problème, vous pouvez la transmettre à quelqu'un, et cette façon de résoudre le problème est devenue, cet algorithme est devenu une partie du patrimoine de l'humanité. Il y a des cas qui sont même très intéressants, par exemple les fourmis qui découvrent, qui ont un chemin, une méthode, un algorithme pour revenir à leur...
Pour se nourrir.
Pour se nourrir. Et cette méthode, cet algorithme, elles ne savent peut-être pas l'exprimer, elles ne savent peut-être pas écrire le programme qui correspond ou décrire l'algorithme, mais elles le réalisent quand même, et c'est un algorithme qu'elles réalisent, qu'elles se transmettent dans leur ADN, si vous voulez.
Et il est complexe, hein, cet algorithme, effectivement.
En fait, les fourmis disposent de toute une gamme d'algorithmes qu'elles utilisent suivant les problèmes, et même différents types de fourmis utilisent différents types d'algorithmes, c'était très étudié, mais maintenant, on peut nous savons les articuler, les préciser comme des algorithmes.
Alors, puisqu'on parlait de biologie tout à l'heure, Gilles Dowek, l'acquisition, par exemple, c'est typiquement algorithmique.
Oui, alors, il y a une chose qui existe depuis le début de l'informatique, mais qui s'est énormément développée dans les quelques années qui se sont écoulées récemment, c'est l'idée qu'un algorithme puisse apprendre. Et donc, on voit bien un algorithme, une recette de cuisine qui permet de faire le tiramisu, une autre recette de cuisine qui permet de faire des additions ou des multiplications. On a l'impression que c'est un objet qui est relativement statique. Une fois qu'on a la recette, et elle ne se modifie pas. Mais vous savez bien, si vous avez déjà fait des tiramisu, qu'en général, le deuxième est mieux réussi que le premier, le troisième est mieux réussi que le deuxième, etc. Donc, simplement dans le fait d'exécuter un algorithme, le cuisinier progresse. Et on s'est posé la question en informatique, est-ce qu'on peut trouver de la même manière des algorithmes qui progressent? Et c'est le cas, par exemple, quand on a des algorithmes qui jouent aux échecs, aux dames, au go, au backgammon, au mastermind. À chaque partie que l'algorithme perd ou gagne, eh bien, il peut apprendre quelque chose sur le jeu. Il peut apprendre, par exemple, que telle configuration qui croyait être très, très bénéfique, finalement, est plutôt une mauvaise configuration. Et donc, changer un tout petit peu un paramètre dans une table des configurations et se dire non, finalement, ça c'est plutôt une situation qu'il faut que j'évite. Et donc, toutes ces questions d'apprentissage, toutes ces questions de transmission de savoir-faire, elles se posent aussi en termes algorithmiques. Et on a vu qu'un certain nombre de problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre si on cherche un algorithme statique, mais deviennent beaucoup plus faciles à résoudre si on cherche un algorithme apprenant.
Donc, il y a une plasticité de l'algorithme.
Exactement.
Comme le cerveau. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec les questions et les messages sur franceinter.fr.
T'épouses la street, la tête dans le win. T'as fait du self-control, ton way of living, pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit pipi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies et dandy, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz, descends, grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui, tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling. Ça pince fesse, ça gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à plein teeth. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Pour admirer la mer, le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. Pour toi qui balise, toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Curling, Erwan et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré. Sur France Inter.
Et le temps des algorithmes, c'est aux éditions Le Pommier, Serge Habitboul et Gilles Dewec, les auteurs de cet ouvrage, sont avec nous cet après-midi pour nous parler de ces algorithmes, Serge Habitboul, qui ne s'appliquent pas qu'aux objets mathématiques, parce que c'est vrai, quand on parle algorithme, on pense mathématiques, informatiques, et vraiment ce que vous montrez dans ce large panorama que vous brossez là dans l'ouvrage, c'est à quel point il touche toutes les activités humaines, hein, au fond.
Oui, tout à fait. C'est pas pour rien qu'un ordinateur, ça s'appelle le General Purpose Machine. C'est une machine à tout faire, donc ça peut permettre de faire toutes sortes de choses, comme de communiquer, de gérer des données ou d'analyser des données. Il y a énormément d'applications autour de l'analyse de données qui vont, par exemple, prendre toutes les données médicales que vous allez pouvoir récupérer, puis à partir de ça, essayer de détecter quand des combinaisons de médicaments peuvent entraîner, par exemple, des problèmes cardiovasculaires. Donc ça, on peut le faire parce qu'on a énormément de données et qu'on va pouvoir les analyser et faire des calculs dessus. Pas forcément des calculs très, très compliqués, c'est des analyses statistiques assez basiques. Mais quand vous faites ça sur des millions de patients et tous leurs examens médicaux, ça commence à faire beaucoup.
Claude demande, est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui pourrait créer d'autres algorithmes, Gilles Dewec?
Alors oui, il en existe déjà. Par exemple, les compilateurs sont des algorithmes qui transforment d'autres algorithmes, qui transforment des programmes en d'autres programmes. Et donc oui, l'informatique est un domaine assez réflexif où, à côté de faire des algorithmes qui conduisent des avions, qui conduisent des voitures, on aime bien aussi faire des algorithmes qui fabriquent des algorithmes.
Mais là, est-ce qu'on peut, on est vraiment dans une émancipation de l'algorithme par rapport même à la...
Non, pas nécessairement, parce que on n'est pas dans une émancipation du fait de l'autoreproduction. C'est pas parce qu'un algorithme fabrique un autre algorithme que tout d'un coup, il va en fabriquer 4, puis 8, puis 16, et ils vont tous nous bouffer. C'est pas l'idée. En revanche, pour fabriquer aujourd'hui un ordinateur, par exemple, qui a des milliards de transistors, eh bien, c'est juste pas possible de dessiner ça sur une feuille de papier. Un milliard de transistors sur une feuille de papier, ça ne tient pas. Donc, on est obligé d'utiliser un ordinateur et donc un autre algorithme pour fabriquer cet ordinateur qu'on est en train de fabriquer.
Serge Habitboul.
Par contre, il y a un domaine sur lequel on progresse, mais on est encore assez léger, c'est le problème de la créativité. C'est-à-dire que l'idée de partir de rien et d'inventer un algorithme qui ferait quelque chose, on en est très loin. Alors, dans des cas particuliers, on est capable de donner une spécification et trouver un algorithme qui arrive à résoudre ce problème, mais c'est vraiment pour des cas très particuliers, très spécifiques. De manière générale, on sait pas encore vraiment faire ça, de la même façon qu'on a des algorithmes qui créent de la musique, mais c'est quand même très limité, ou des algorithmes qui écrivent des textes.
Ah oui.
Mais bon, c'est pas
très au point encore.
C'est pas encore Proust ou Baudelaire.
Bon, ça va, on a encore un peu d'espace pour la créativité. Un exemple particulier, justement, on va l'entendre dans cet extrait de l'émission Xenus sur Arte, c'était en 2015, sur l'utilisation d'algorithmes par la police américaine.
Ce n'est plus le chef de la police qui décide où envoyer les patrouilles, mais un logiciel développé à l'université de Santa Clara, au sud de San Francisco, entre autres par le mathématicien George Mueller.
Pour prédire le lieu où un crime va se produire, l'algorithme est toujours 2 à 3 fois plus précis que l'analyse humaine. Les algorithmes utilisent les données des délits observés au cours des dernières années. On fournit à l'ordinateur les rapports de police des 5 à 10 années précédentes, avec les lieux, les dates, les types de crimes et l'usage ou non d'armes à feu. Une fois toutes ces informations réunies, on lance les algorithmes chaque jour. On obtient ainsi des pronostics qui indiquent à la police où envoyer des patrouilles sur le terrain.
Santa Cruz Charlie 113, I'll be out with 184. Serge Habitboul, alors un exemple parmi tant d'autres. Hein.
C'est un exemple du genre de travail dont je parlais, qui était sur l'analyse de données. Et donc c'est vrai que là, on génère énormément de données sur tout ce que les policiers ont fait, toutes leurs interventions, tous les crimes et délits, et que traiter ça, c'est compliqué, qu'une personne n'a pas forcément tout ça en tête, et donc avec un algorithme qui analyse ces données, on peut peut-être faire mieux qu'une personne. Par contre, il faut se méfier un peu du fantasme, l'algorithme qui va...
Trouver...
C'est un peu survendu.
Trouver criminel.
Voilà, hein, c'est un peu survendu. L'algorithme qui va savoir exactement qu'il va y avoir un crime à tel endroit.
C'est ça.
On est complètement dans le fantasme.
Bon, complètement alors ça va, vous me rassurez. En tout cas, on en demande beaucoup aux algorithmes, Gilles Dowek, sur la fiabilité, justement. Hein. On est beaucoup moins indulgent avec un algorithme qu'avec un homo sapiens, quand même.
Oui, alors ça, c'est vrai. Par exemple, il y a des algorithmes qui conduisent des métros, il y a des algorithmes qui conduisent des avions, il y a des algorithmes qui conduisent des voitures. Et on sait que pour que ces algorithmes soient acceptés socialement, c'est-à-dire que des gens acceptent de monter dans ce métro, dans cette voiture ou dans cet avion, il faut que ces algorithmes atteignent une fiabilité qui est énorme, c'est-à-dire qui est moins d'un accident, par exemple, sur 10 millions d'heures de vol ou des choses comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que vous et moi, nous prenons une voiture, notre voiture assez fréquemment, et nous roulons sur des routes mortellement dangereuses. Et donc, d'habitude, on estime qu'il faut, quand on remplace le conducteur humain en état d'ébriété ou non par un algorithme, il faut augmenter d'un facteur 10 la fiabilité pour que les gens acceptent ce taux d'accident. Alors, on pourrait penser que dès que l'algorithme a moins d'accidents qu'un être humain, on va l'accepter. Non, il faut qu'il ait beaucoup moins d'accidents d'un être humain pour qu'on puisse commencer à l'accepter.
Alors, ces algorithmes, parce qu'on poursuit justement la découverte de leur impact et de ces bouleversements que vous décrivez, vous parlez de révolution tout à l'heure, mais je crois que le mot est vraiment exact en ce qui concerne donc ces algorithmes. Vous dites à quel point il y a des bouleversements sociétaux importants, en particulier en ce qui concerne le monde du travail, Serge Habitboul. Qu'est-ce que ça remet en cause effectivement aujourd'hui cet environnement algorithmique?
Alors ça remet en cause énormément de choses, on voit ça sans arrêt, on voit ça avec Uber ou d'autres exemples. Donc ça remet en cause fondamentalement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que parce qu'on a des nouvelles façons d'échanger de l'information, beaucoup plus efficaces, beaucoup moins coûteuses, on peut complètement transformer la façon de faire certaines choses. Donc par exemple, la façon de louer un appartement, c'est quelque chose qui était quand même assez lourd, il fallait passer par une agence, etc. Maintenant, vous pouvez faire ça en quelques clics et les exemples se multiplient. Ça, c'est uniquement dû au fait que les échanges d'informations sont énormément simplifiés par l'utilisation d'algorithmes. Le deuxième niveau, ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a de plus en plus de métiers dans lesquels les personnes sont remplacées en grande partie par des algorithmes. Et donc, on a des métiers qui, en grande partie, disparaissent. Et que ça crée sur le problème du travail des transformations considérables.
Alors, des transformations ou des problèmes, Gilles Dowek?
Alors, les transformations du monde du travail ont toujours été globalement dans le bon sens. C'est-à-dire, on travaille toujours moins, on produit plus en travaillant moins, ce qui est quand même un peu le but dans la vie. Le but n'est pas de travailler beaucoup pour produire peu, c'est quand même de travailler le moins possible et de jouir du maximum de richesse. Cependant, on sait dans l'histoire, avant l'informatique, avant les algorithmes et après, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un bouleversement dans l'organisation du travail, ce bouleversement profite à certains et se fait au détriment d'autres. Et donc aujourd'hui, il est vrai que quand vous remplacez des caisses dans un supermarché par des caisses automatiques, eh bien, même si globalement c'est mieux parce que la caissière va avoir moins de troubles musculo-squelettiques, moins mal au dos,
etc. Mais c'est sûr qu'au chômage, elle aura plus de troubles du tout.
Voilà, sauf que elle, de son point de vue, ce qui se passe, c'est qu'elle est mise au chômage. Et donc, il nous semble que cette transformation du monde du travail qui se fait et qui est plutôt une bonne chose, nous pose de nouvelles questions politiques à laquelle les réponses qui va payer le salaire de la caissière aujourd'hui, est-ce qu'on va la laisser chez elle, est-ce qu'on va lui permettre de faire des études, est-ce qu'on va, et pourquoi pas lui permettre d'être oisive, peut-être, c'est peut-être aussi un but dans l'existence. C'est des questions politiques qui sont posées et la réponse ne viendra pas des algorithmes, elle viendra vraiment là des êtres humains, elle viendra de nous, elle viendra de la société.
Ouais. Le revenu universel, par exemple, pourrait être une solution?
Le revenu universel est une solution, mais à condition que ça soit le revenu universel joyeux. Aujourd'hui, on voit le revenu universel comme un moyen, une aumône qu'on donne aux pauvres pour essayer de résoudre le problème du chômage. Et si on veut voir les choses à l'envers et de se dire, on va enfin vivre dans un Eldorado où nous n'aurons pas besoin de travailler, et donc il est normal que chacun de nous ait un revenu pour pouvoir jouir de la vie, et pas uniquement pour résoudre ce grave problème, ce douloureux problème du chômage.
C'est très utopique quand même, Serge Habitboul, non?
C'est pas utopique, c'est la réalité. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on le veuille ou non, le travail est en train de disparaître. Ça va pas se faire en 10 ans, ça va se faire en pas mal de temps quand même, mais le travail est en train de disparaître. Donc la question essentielle
Pour nous, c'est pas tellement cette disparition du travail que l'on peut pas éviter, c'est comment on redistribue les richesses. C'est ça la vraie question. Alors évidemment, la solution qui est de dire, on va redistribuer les richesses suivant les besoins de tout le monde. Vous pouvez appeler ça utopique. Si l'autre solution, c'est un petit pourcentage de la population contrôle toutes les machines, tous les robots, tous les algorithmes, et se prend toutes les richesses, et l'autre partie, 90-95% de la population crève de faim, c'est juste quelque chose qui n'est pas soutenable. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y aura certainement des crises pour y arriver, mais d'une certaine façon, c'est un peu inéluctable.
Ouais. Vous parliez des caissières, Gilles Dewey. Il y a beaucoup de métiers qui sont victimes des algorithmes aujourd'hui, vraiment?
Il y a beaucoup de métiers qui sont transformés et il y a beaucoup de métiers qui disparaissent.
Ouais. Et ce qui est intéressant... Lesquels, par exemple, à cause des algorithmes?
Par exemple, le dernier mail que vous avez reçu, il est probable qu'aucun facteur ne vous l'a apporté. Donc, il y avait une époque où à chaque fois qu'on recevait une lettre, un courrier, il y avait un facteur
qui l'apportait,
qui le triait, etc. Et aujourd'hui, c'est des machines qui font ça, donc le métier de facteur n'existe quasiment plus. Mais ce qui est intéressant, et c'était déjà remarqué dans le document de 69 qu'on a entendu, c'est que ce ne sont pas uniquement les métiers manuels qui sont attaqués. C'est pas uniquement le tourneur ou le tisserand qui va être remplacé par un métier à tisser ou par un tour. C'est aussi les profs, les avocats, les médecins.
Et là, vous dites, dans l'enseignement, l'humain est meilleur que l'algorithme, dans certains cas, quand même.
Dans certains cas, mais pas...
Comme
pas,
par hasard.
Pas pour corriger. Alors ça, c'est une très bonne observation. Tout le monde pense que tous les métiers vont disparaître, sauf le sien. Je suis sûr que vous croyez que...
Un animateur de radio,
il n'y aura jamais un algorithme.
On en est largement persuadé.
En revanche, je peux reconnaître que dans le métier d'enseignant, par exemple, il y a des tâches extrêmement répétitives. Ouais. Corriger des copies, c'est pas un truc qui est très créatif. Et je suis sûr que beaucoup d'enseignants seraient très contents de voir un algorithme corriger les copies pour eux.
Mais vous verrez le jour où un robot viendra vous interviewer, Gilles Dewey, comme vous allez vous ennuyer au micro, ce sera pas du tout la même chose. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les Azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les Azous. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi, je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Da dizi you da dido. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou. Et des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. La société devant payer sa dette. Devant la guillotine, j'agène, dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Quand c'est fou, ce qu'on rigolera. Quand je me la douche, on chantera comme ça.
Prenons les maisons intelligentes. des habitations dotées de capteurs qui analysent notre quotidien. Allstate, un assureur américain, offre déjà 25% de remise à tous les propriétaires qui en équiperaient leur habitation. Étonnant. Autre secteur, les voitures. Des boîtiers installés dans les véhicules permettent aux conducteurs de jouer avec leurs propres statistiques. Mais l'assureur, lui, les analyse pour affiner des profils types, les bonus et les malus, et donc des contrats types. Pourquoi s'en priver ? En France, 70% des automobilistes seraient prêts à équiper leur voiture de capteurs en échange d'une ristourne sur leur contrat. Et la santé. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain. Jusqu'à 100 euros si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé.
Et oui, bien sûr, avec le monde des algorithmes et ce livre aux éditions Le Pommier avec Serge Habitboul et Gilles Dewec. Un commentaire, Gilles Dewec, sur la protection des données, la vie privée. Vous l'abordez également dans cet ouvrage. Ça pose un vrai problème, ça ?
Oui, alors aujourd'hui, il y a un vrai problème de protection des données, un vrai problème de vie privée, beaucoup parce que nous ne savons pas quand nous utilisons, par exemple, les réseaux sociaux, quand nous utilisons d'autres services en ligne, des librairies en ligne, etc. Nous ne savons pas quelles données sont collectées sur nos comportements, et nous ne savons pas qui les utilise, les entreprises d'une part, les États d'autre part. Donc les entreprises essentiellement pour nous vendre davantage de choses, les États pour nous surveiller. Mais nous ne savons pas pour deux raisons. Alors la plupart des utilisateurs savent même pas ce qu'une donnée, ce que veut dire collecter des données, etc. Mais également ces entreprises-là qui collectent les données le font d'une manière assez opaque. Et donc ça c'est un vrai problème sur lequel, pour une fois, ça vaut le coup d'être pessimiste, ça vaut le coup d'être négatif et ça vaut le coup de se battre.
Serge Habitboul, les questions des auditeurs. Olivier demande, il existe des algorithmes qui discutent sur les chats de rencontres, est-ce qu'on peut alors parler de conscience algorithmique ?
Alors je pense que l'auditeur fait référence au chatbot, donc un de ces algorithmes qui avait été mis en place par Microsoft, qui s'appelle Tai, et à qui donc c'était sur Twitter, et les gens lui ont appris à dire des gros mots, à avoir des propos sexistes, misogynes, tout ce que vous voulez. Bon, là, la question, c'est est-ce que le robot avait conscience de faire ça ? Certainement pas plus qu'un gosse de 5 ans à qui vous auriez appris à dire des gros mots, qui les répéterait sans avoir conscience de ce qu'il fait. Donc le robot répète un peu ce qu'on lui a dit de faire. Il n'y a pas véritablement de conscience dans ces trucs-là. Ce qui est plus intéressant comme question, d'ailleurs, c'est pas tellement est-ce que le robot a une conscience ou pas, là on s'en fout. Ce qui est important...
C'est sympa pour Olivier, merci pour lui. Merci Olivier d'avoir posé votre question.
Pardon Olivier, donc je vais corriger la question d'Olivier.
Nous sommes en direct, Serge Habitboul, quand même faites attention à ce que vous racontez, enfin.
Désolé Olivier, je m'excuse platement.
Moi je trouve que c'est une très bonne question, en vrai.
Non, c'est une question intéressante qu'Olivier aurait aussi pu poser, mais s'il avait eu le temps, il l'aurait posé certainement, c'est qui est responsable dans ce cas-là. Est-ce que c'est la personne qui a écrit le programme ? Est-ce que c'est Microsoft qui l'a mis en ligne ? Est-ce que c'est Twitter dont on a utilisé le système ? Est-ce que c'est les usagers qui ont appris tous ces gros mots et ces insanités à taille ? C'est ça la vraie question.
Roger demande, j'ai toujours cru qu'un algorithme était un programme, que c'était la même chose. À vous entendre, ça n'est pas le cas. Quelle est la différence, Gilles Dewec ?
Alors, il faut encore que je vous parle de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère faisait énormément de pâtisserie,
oui.
Mais elle connaissait des recettes, mais elle ne savait pas ni les écrire ni les dire. Et en particulier, elle mettait de la farine, mais elle savait pas combien de grammes de farine elle mettait, mais elle savait quand il y en avait assez et quand il en manquait. Donc là, on a dans la personne de ma grand-mère une personne qui connaît un algorithme, puisqu'elle sait l'exécuter, elle sait faire les gâteaux, mais elle ne sait pas le verbaliser. Donc elle a l'algorithme, elle n'a pas le programme. Le programme, et il faut comprendre que l'informatique, c'est beaucoup un univers de signes, un univers de symboles, un univers où on pétrit non pas de la pâte à pain, mais des symboles. Le programme, c'est l'expression de l'algorithme par des signes, par des mots, par des lettres, par des chiffres. Et donc, il y a la même différence entre la carte et le territoire. Le programme, c'est la carte. Et l'algorithme, c'est le territoire.
Vous êtes le Michel Houellebecq des algorithmes, Gilles Dewec. On va terminer alors en parlant d'informatique, parce que vous terminez le livre justement sur tout un chapitre à cela, sur la démocratie algorithmique, parce que vous dites à quel point, au fond, les institutions aujourd'hui sont complètement à côté de la plaque, en gros. sur les évolutions.
Elles ne sont pas à côté de la plaque, elles ont été inventées au XVIIIe siècle. Et donc, nos institutions qui datent du XVIIIe siècle, elles répondent aux problèmes qui se posaient au XVIIIe siècle. Mais surtout, le point sur lequel on essaye d'insister, c'est sur le fait que ce que font ces institutions, c'est essentiellement des manières d'échanger de l'information. Mmh. Et donc, gouverner un pays, on sait par exemple que les élections sont des algorithmes. On sait qu'en fonction de l'algorithme qu'on utilise pour élire le président des États-Unis, par exemple, on peut élire une présidente ou un président. Puisque si on a l'algorithme simple qui consiste à compter les voix et à prendre celui qui a la majorité des voix, ça aurait été Hillary Clinton qui aurait été présidente. Si on a un algorithme plus compliqué où on commence par découper le territoire en 50 États, puis on compte par État,
et puis des grands électeurs.
Des grands électeurs, etc. C'est un autre algorithme. Mais indépendamment des élections elles-mêmes, tout le processus politique n'est jamais qu'un processus d'échange d'informations et souvent de traitement d'informations d'une manière algorithmique.
Sauf que Serge Habitboul, vous appelez quand même un changement là, parce qu'il y a un décalage total entre la réalité justement et les institutions et la façon dont la démocratie pourrait fonctionner aussi.
Alors, on appelle un changement, et ce changement est en train d'avoir lieu. Les gens prennent conscience, font des tas d'expériences de tous les côtés. Donc, d'une certaine façon, l'information entre les gouvernements et les citoyens a complètement changé. Mm-hmm. Les citoyens peuvent commencer à regarder ce qui se passe dans les gouvernements, ce qu'ils font avec des choses comme l'open data, par exemple, qui peut leur permettre de surveiller la chose publique de façon plus systématique, avec l'aide de journalistes qui utilisent du data journalisme, par exemple. Mais il y a une autre dimension pour laquelle on est pour l'instant encore très lent à se transformer, c'est la participation des citoyens, c'est la démocratie participative avec l'informatique, avec ces nouveaux moyens, avec les algorithmes. On pourrait faire participer les citoyens beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui dans les réflexions autour des problèmes, éventuellement même jusqu'à aller dans les prises de décision, au-delà de juste voter une fois de temps en temps. Quoi.
Bon, bah écoutez, vous serez peut-être nos futurs représentants, en tout cas, avec ces idées que vous développez dans
ce sont les algorithmes qui vont être vos futurs représentants.
Ça, c'est effrayant, hein, quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup, et puis on lira aussi ce que vous dites sur l'enseignement même de l'informatique, hein, avec là aussi un gros problème au niveau de la façon dont sont transmises toutes ces connaissances. Merci à tous les deux. Le temps des algorithmes, Serge Habitboul et Gilles Dowek. Cet ouvrage est paru, vient de paraître aux éditions Le Pommier.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous allez bien ?
Très, là, ma voix, j'ai juste du mal à avaler peut-être.
Mais oui, hein. Alors vous allez nous dire du mal de la science encore aujourd'hui ou
non,
pas ?
Non, pas de la science Mathieu, je vais vous dire du mal de la mauvaise science. Car la science bâclée ou frelatée, c'est pire que l'absence de science. Et c'est particulièrement vrai en médecine. Je rappelle souvent que la recommandation de coucher les bébés sur le ventre entre 1975 et 1995 a tué 10 000 nourrissons, alors que les mamans avant couchaient spontanément leur bébé sur le dos. Et ce mauvais conseil a été donné à l'époque par de grands pédiatres au nom de la science. Et donc, parmi ceux qui s'inquiètent de la médiocrité de nombreuses publications scientifiques, un groupe de chercheurs de renom vient de publier dans Nature un manifeste pour une science reproductible.
Alors, c'est-à-dire, détail.
Bah, en fait, un des principaux critères de qualité d'une étude scientifique, c'est qu'il soit possible de reproduire le résultat obtenu en suivant le même protocole.
Ça paraît évident quand même, non ?
Bah, c'est évident, sauf qu'en pratique, ceux qui ont essayé constatent qu'ils obtiennent des résultats beaucoup moins beaux que les auteurs initiaux, voire qu'ils n'obtiennent aucun résultat.
Ah oui.
Bah oui, c'est plutôt inquiétant et ce manifeste regroupe donc un ensemble de conseils pour améliorer la crédibilité des publications scientifiques.
Vous avez des exemples, docteur Dupagne ?
Oui, pour commencer, par exemple, il est important de publier son protocole de recherche avant de publier ses résultats. Ça permet de détecter une fraude assez classique qui consiste à partir des résultats qu'on a obtenus pour chercher des hypothèses qui vont bien. Alors que la science, ça consiste à poser d'abord une hypothèse, puis à tenter de la valider par une expérience. Exemple, pour un médicament, vous devez d'abord déterminer quels symptômes vous cherchez à traiter et ensuite administrer le produit à des malades pour vérifier qu'il les soulage. En revanche, vous n'avez pas le droit de donner le médicament à des malades présentant des symptômes variés et puis après de sélectionner les symptômes qui sont améliorés pour en faire une hypothèse de départ. Ça fausse totalement l'analyse statistique. Un autre critère, Les données utilisées pour une publication doivent être accessibles aux autres chercheurs qui pourront ainsi vérifier vos résultats. Par exemple, tout le débat sur le dépistage du cancer du sein par mammographie est faussé par les études initiales réalisées en Suède, dont les données n'ont jamais été communiquées par leur auteur et dont les résultats très favorables au dépistage sont en contradiction avec les registres de mortalité suédois.
Grave, ouais.
Ouais. Enfin, ce manifeste invite la communauté scientifique à valoriser les chercheurs qui tentent de reproduire les travaux scientifiques importants. Car, pour l'instant, c'est surtout la publication de beaux résultats, même douteux, qui valorise le plus la carrière d'un chercheur.
Et quand on n'est pas scientifique soi-même, on fait quoi? Eh ben,
c'est la question. C'est justement le travail des journalistes, hein, d'aider le public à s'y retrouver dans le maquis des publications scientifiques. Ça suppose que les journalistes possèdent une formation scientifique solide ou qu'ils s'appuient sur un réseau de scientifiques fiables qui les aident à ne pas se faire manipuler.
Donc une petite piqûre de rappel qui est toujours bonne à faire, Dominique Dupagne. Et on peut réécouter cette chronique sur franceinter.fr. Est-ce que les algorithmes, Gilles Dowek, peuvent nous aider à faire de la meilleure science?
Alors, une des solutions qui est proposée, qui est de publier les données brutes, de manière à ce que tout le monde puisse accéder aux données, et une solution qui n'est possible que depuis qu'il y a des outils de publication des données, et des algorithmes aussi pour analyser ces données, et quand le programme de l'algorithme est rendu public, c'est encore mieux. Donc oui, les algorithmes ont complètement leur rôle à jouer dans cette question.
Merci.